Spécial news cette semaine avec une grosse page rumeur, une Apple Car sans volant, un iPhone pliable dans 2 ans et un installeur de Big Sur à éviter absolument. Encore des nouveautés dans le futur iOS 14.5, on va vous raconter. Et puis un tuto audio de vacances, Ellie va vous guider pour programmer le changement de cadran automatique de votre Apple Watch en fonction de l'heure et de l'endroit où vous vous trouvez. Vacances donc, mais iWeek, la semaine Apple, le podcast, est au rendez-vous du jeudi avant 20h. Et nous avons un invité pour cet épisode 26. Il s'appelle Anthony et c'est l'un d'entre vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce nouveau numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Nous sommes le jeudi 18 février 2021 et pour la majorité d'entre nous, d'entre vous, c'est les vacances. Alors on tenait quand même à être au rendez-vous, même si l'effectif est considérablement réduit. François, pas là, Gilles, absent, Jean-Christophe, offline. Cette semaine, Ellie, on est presque que tous les deux. Salut.
Eh oui, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et s'il n'en restait qu'un?
Ah oui, c'est donc toi. Enfin tranquille, peut-on dire.
Oui, bah écoute, tu vas voir que ça sera quand même un tout petit peu mouvementé comme toutes les semaines. Et puis on a des petites surprises là.
Absolument. Alors quand je dis tranquille, bah en fait pas tout à fait. Parce qu'on accueille pour la première fois, plus qu'un auditeur du podcast, un contributeur Patreon. Je suis très heureux de saluer Anthony. Salut Anthony.
Salut Ellie, salut Benjamin. Ben, plaisir partagé, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir.
Eh bien écoute, tu es le bienvenu dans le podcast d'iWeek, la semaine Apple. Anthony Guillemère.
Ouais, c'est ça, c'est bien prononcé.
30 ans, alors tu es toi aussi dans le sud, mais tu es de l'autre côté, tu es à Perpignan.
Ouais.
Dis-nous qui tu es en quelques mots.
Alors qui je suis? Moi je suis vidéaste semi-professionnel, je suis aussi web marketeur ouais. Pour une destination touristique Bagnoul-sur-Mer, je sais pas si vous connaissez.
Bien sûr.
Donc voilà, et passionné d'Apple forcément. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus?
comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous?
C'est une longue histoire. Il y a quelques années déjà. Je me baladais dans les chaînes lointaines de ma Freebox.
Ouais. Oui.
Et je suis tombé sur une émission, iWeek, sur Watch, une chaîne que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est génial, des gens qui parlent, des passionnés. Je savais même pas qui vous étiez, qui travaillait dans quoi. Je me suis dit, mais ils parlent de quelque chose qu'ils ont l'air de maîtriser. Et à la télé, c'était assez rare. Donc je me suis mis à suivre le rendez-vous. Puis ça s'est arrêté, vous êtes revenu en podcast et puis bon, j'étais toujours là et c'est toujours un plaisir vraiment à chaque semaine.
Mais c'est super.
Bon bah écoute, ça nous touche beaucoup d'abord que tu nous aies suivis toutes ces années, que tu sois là aujourd'hui et voilà, tu es là à part entière aujourd'hui. En plus, tu profites de la défection des autres, donc tant mieux. Qui va à la chasse perd sa place. Tu interviens quand tu veux sur tous les sujets qui peuvent t'intéresser, t'interpeller. Si tu as des questions, t'hésite pas. Vraiment, bienvenue dans cet épisode 26 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Alors, la semaine a été assez calme, hein, je vous le cache pas. Alors, en attendant le retour des copains la semaine prochaine, on vous propose un épisode un peu différent d'habitude. Alors, avant de détailler le programme, n'oubliez pas quand même de nous soutenir comme Anthony via Patreon. C'est aussi ce qu'a fait Frédéric Crassa cette semaine. Merci Frédéric, bienvenue aussi à toi dans cette famille iWeek sur Patreon à laquelle Anthony participe. L'adresse c'est patreon.com/iWeek. On a besoin de votre aide et de votre soutien pour continuer iWeek, la semaine Apple, le podcast, pour continuer à le développer. Ça coûte un peu d'argent, à partir d'€1,50 par épisode. Combien tu contribues toi Anthony chaque semaine?
Il me semble que c'est 3€ par épisode.
Oh là, tu es un bienfaiteur.
Ouais.
Oh. Bon, tu sais que tu peux arrêter quand tu veux. Hein.
Non, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Je continue.
Bon, c'est super sympa. Alors, avec chaque contribution, vous avez des avantages. Évidemment, les épisodes sans pub, vous avez l'accès à mon script de travail. Des sondages exclusifs la plupart du temps. La version vidéo du podcast pour nous voir, comme à l'époque de Watch, celle dont parlait Anthony. Et puis, vous avez même la possibilité, donc, désormais, d'être notre invité. Voilà, tu inaugures, Anthony, cette possibilité qu'on donne à nos contributeurs sur Patreon. Alors, pour en profiter, pour faire comme Anthony, une seule adresse, patreon.com/iWeek. Et puis, tant qu'on y est, ben allez-y, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. iWeek est sur toutes les meilleures plateformes, c'est gratuit. Spotify, Deezer, Google Podcast et bien sûr sur Apple Podcast où vous pouvez nous mettre une note 5 étoiles évidemment, on va pas s'en priver. Et vous pouvez aussi écrire un avis, quelques mots bien à vous qui donneront envie aux autres. C'est ce qu'a fait Mikey il y a quelques jours, qui a écrit « Toujours au top, notre rendez-vous hebdomadaire incontournable ». Ou encore Vince Lille qui a écrit « J'ai dû rattraper 3 épisodes en retard, j'adore, on est content de retrouver nos voix familières ». Bien, merci beaucoup à toi, c'est super sympa. Et à tous ceux qui nous écoutaient, faites comme eux et laissez un petit mot sur Apple Podcast. Pour nous suivre, vous avez aussi Twitter, @iWeekNews, et Instagram, @iWeek.news. Alors, followez-nous. Dans un instant, une avalanche de news. Tout ce que vous devriez savoir et avoir à l'esprit si vous aviez passé un temps inavouable à suivre l'actu Apple cette semaine. On va commencer par les infos, il y en a pas mal, et puis on ouvrira une page spéciale rumeurs et bruits de couloir avec notre prudence habituelle. Ellie, puisque tu es là, on perd pas nos bonnes habitudes, hein ?
Ah bah écoute, on revient à nos habitudes, on va faire un petit repas,
un petit repas
technologique.
Avec entrée, plat, dessert ?
Ah bah oui.
On va se régaler ?
Oui.
Est-ce qu'on va se régaler ?
J'espère. Vous me direz tout à l'heure.
Bon, ce sera tout à l'heure le dîner d'Eli. Le tuto audio, tu vas nous expliquer, Eli, comment changer de cadran d'Apple Watch, c'est ça ?
C'est ça. Alors, j'ai trouvé, c'est rigolo, c'est très facile à utiliser. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui avaient une Apple Watch et un iPhone, ou qui avaient un iPhone, ça vous permet quand même de le faire, et comme ça vous donnera envie d'avoir une Apple Watch, vous pourrez le faire en direct avec nous, comme on fait habituellement. Donc, vous verrez, c'est assez sympathique.
Voilà, et les cadrans changent en fonction du moment de la journée ou du lieu où on se trouve, hein, c'est ça ?
Oui, ou de l'activité physique que vous avez envie de faire. En fait, on peut déclencher de 50 façons un changement, et plutôt que d'aller vous balader dans les cadrans de l'Apple Watch, l'Apple Watch va le faire pour vous automatiquement. Enfin, c'est plutôt l'iPhone qui va demander à l'Apple Watch de le faire pour vous. Vous pourriez même le faire de façon aléatoire, et comme ça, quand vous regardez votre montre, vous ne savez jamais le cadran qui va s'afficher, c'est magique.
Voilà, ce sera donc à la fin de l'épisode, juste avant nos coups de cœur de la semaine, mon cher Ellie. Mais j'allais oublier, puisque je parlais de coups de cœur, un coup de gueule cette fois que tu vas pousser.
Ouais, tout à fait. Donc cette semaine, j'ai décidé, comme mes petits camarades sont pas là, je leur ai piqué toutes leurs rubriques. Donc je vais taper le coup de gueule de la semaine agile, je vais faire dans mon petit repas un petit vu d'ici, pour ne pas dire vu d'ailleurs, et voilà, comme ça on va garder nos chroniques habituelles. Vous ne serez pas dépaysés.
C'est formidable. Et bien c'est formidable. iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 26. C'est parti. Pommes, le journal de la semaine, les infos qui méritent d'être sauvegardées dans votre tête. Et on commence, Ellie, par un sujet qui te passionne, c'est l'Apple Car. Puisque hier, c'était le 17 février. C'est le jour où Apple et Kia Hyundai devaient ou auraient dû signer leur accord de coopération pour sortir 100 000 Apple Car dès 2024. On en a parlé il y a 15 jours et on s'était donné rendez-vous aujourd'hui pour faire le point. Et bien, pas de nouvelles pour l'instant. Alors, est-ce que c'est un ballon qui se dégonfle ? Ou est-ce que le possible deal sent le pâté ? Il y a un nouvel acteur aussi dans l'histoire, c'est Nissan, qui, il y a 3 jours, a envoyé un communiqué à Reuters dans lequel on peut lire noir sur blanc « Nous ne sommes pas en discussion avec Apple », après une info du Financial Times. Bon, en fait, apparemment, et c'est exactement ce que tu disais, ce que disait Jean-Christophe il y a 15 jours, Ellie, aucun constructeur japonais ne veut jouer le rôle secondaire dans le projet. Et nous, c'est ce qu'on vous disait aussi il y a 15 jours, Apple n'a pas l'air de vouloir partager l'affiche, même si Tim Cook peut difficilement se passer d'un partenaire industriel. Anthony, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, l'Apple Car, ou le fantasme autour de la voiture Apple ?
C'est un sujet que je suis de loin, parce que j'ai l'impression de ne pas être directement concerné, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui verra le jour, pas tout de suite, dans quelques années. En vous écoutant dans les épisodes précédents, vous étiez partagé sur le fait que est-ce que Apple va vraiment construire un véhicule ou est-ce qu'ils allaient plutôt créer quelque chose qui serait implémenté dans d'autres constructeurs. Moi, en vous écoutant, je me disais que je rêve quand même qu'un jour il y ait une voiture Apple avec une pomme dessus. C'est quelque chose qui fait fantasmer, mais qui est pas. Je pense que je sauterai pas dessus de suite, etc. Enfin, c'est pas du tout. Je pense pas être la cible. Mais je me dis ouais, ce serait quand même vachement chouette que ça existe un jour.
Et c'est pour toi ou pas ? Est-ce que tu économiseras pour l'Apple Car ?
Je pense qu'il faudra économiser tellement que non, je préfère pas, même pas y penser.
Bon, d'accord. Bon, alors pour revenir à cette rumeur entre Apple et Hyundai Kia, une enquête est en cours en Corée du Sud pour déterminer si certains chez Hyundai n'ont pas fait sortir une info qu'ils savaient inexacte pour profiter du bond de l'action. Je vous rappelle qu'elle avait gagné près de 20% il y a 15 jours, n'est-ce pas, Ellie ?
Oui, absolument. Et c'était vraiment une enquête tout à fait sérieuse. Hein. Donc, bon, moi, je vous avais dit que j'y croyais pas. Donc, je continue à ne pas y croire dans telle qu'elle a été présentée, effectivement, par Nissan qui a démenti. Enfin, Nissan qui a surtout voulu dire non, mais nous, on n'est pas en discussion. On veut pas d'enquête. Hein. Foutez-nous la paix. Donc, moi, j'y crois toujours pas. Je pense qu'il y a des gens qui essaient de faire de l'argent. Je pense que Apple travaille sur des technologies. Et puis d'ailleurs, pour compléter l'info que tu as donnée, j'ai lu tout à l'heure, hein, cet après-midi, une petite brève chez MacBidouille. Tu sais que MacBidouille, généralement, ils sont plutôt bien informés. Hein. Rappelle-toi qu'on a eu Lionel dans une émission il y a quelques années et ça avait été une émission assez super. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que Apple ne travaillerait pas vraiment sur une voiture autonome de style Tesla, c'est-à-dire une voiture avec un volant, même si vous avez vu que dans la dernière Tesla, le volant ressemble de moins en moins à un volant. Mais que, en fait, Apple travaillerait sur un système plutôt de navette, qui serait, elle, 100% automatique pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de conducteur et pas de volant, et qui fonctionnerait dans des circuits prédéterminés, soit dans des entreprises, soit dans des zones urbaines, dans des agglomérations, etc. Et c'était une rumeur qui était sortie à l'époque du projet Titan. Donc c'est vraiment un truc lointain, mais qui là semble être reconfirmé. Et ça a un certain nombre d'avantages, je trouve.
Ouais, mais ces navettes, elles existent déjà. C'est ça qui est bizarre.
Oui, mais Apple peut faire mieux. Je sais qu'il y en a, j'en ai vu, hein, dans des tout petits trucs. Alors, c'est encore peut-être une voie supplémentaire pour nous égarer. Pourquoi est-ce que la rumeur ressort maintenant ? Je sais pas. En fait, ce que disent les gens et ce qui était évoqué dans cet article dont je vous parlais, c'est que ça éviterait, dans un premier temps en tout cas, à Apple d'entrer en concurrence frontale directe avec l'ensemble des constructeurs automobiles qui en même temps sont ses clients pour CarPlay. Hein, on en avait parlé dans une des dernières émissions. Parce qu'ils feraient un système qui montrerait leur savoir-faire en conduite autonome, qui leur éviterait d'être en frontal, et de notre côté, qui éviterait tous ces problèmes de fabrication, d'usine, de batterie, de centre de service, on en parlait de tout ça, dans un premier temps en tout cas. Et d'ailleurs, s'ils montrent que leur technologie est bonne, ils pourraient profiter pour la vendre aux autres. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils feraient une technologie vendable à tous plutôt qu'une voiture vendable à très peu. Parce qu'une voiture Apple, ça sera au-delà de 100 000 euros. Très peu de monde pourra se la payer. Alors que la tendance actuelle du marché est telle que l'a défini Elon Musk depuis le début, avait été au départ faire une voiture très chère pour avoir des sous. Bon, Apple n'a pas besoin de sous. Puis ensuite, faire une voiture beaucoup moins chère, c'est la Model 3, pour pouvoir la vendre à tout le monde. Et ensuite, maintenant, ils sont en train de préparer, parce qu'ils ont des usines en Chine et ailleurs, une voiture qui sera entre 20 et 25 000 euros, qui va s'appeler la Model 2, et qui, celle-là, va entrer en concurrence frontale avec des Clio, des Twingo, des ID3 électriques, etc. Alors que eux, ils ont déjà les batteries, le réseau, les revendeurs, etc. Et leur immense base de data dont on a parlé, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des centaines de pétaoctets envoyés par toutes les Tesla du monde dans des énormes bases de données qui viennent enrichir l'expérience de conduite. Pour rattraper ce retard, il faut du temps.
Waouh ! Allez, on passe au sujet suivant dans ce journal de la semaine avec Epic Games qui attaque Apple en Europe pour pratiques anticoncurrentielles en lui reprochant d'avoir éliminé la concurrence. Tim Sweeney, le CEO dont Gilles vous avait parlé ici même il y a plusieurs semaines, a utilisé son clavier pour écrire sur le blog de l'entreprise. Il écrit « Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même des plateformes mobiles. Les consommateurs ont le droit d'installer des apps en provenance des sources de leur choix et les développeurs ont le droit d'être en concurrence sur une place de marché équitable. » Alors on va rappeler qu'Epic Games avait mis en place un système de paiement qui évitait à ses utilisateurs de passer par l'App Store pour payer, ce qui avait abouti à l'exclusion de Fortnite de l'App Store. Bizarrement, Google, qui est aussi dans le collimateur d'Epic Games, n'est pas visé par cette procédure en Europe. En tout cas, pas encore. Tu joues à Fortnite, Anthony ?
Non, je voulais m'y mettre, mais du coup, je peux pas.
Ah oui ?
Non, pas vraiment. J'ai suivi le truc au début parce que ça a fait beaucoup de bruit. Là, maintenant, je trouve que ça tourne un peu en farce, en fait. Ça n'en finit plus. Bon, c'est un peu... moi, j'ai un peu décroché, en fait, hein, pour tout vous dire, l'affaire.
Nous aussi.
Oui, mais c'est vraiment des guéguerres d'ego, hein, parce que le mec s'accroche. On rappelle qu'il a le droit, évidemment, d'avoir son opinion et de dépenser de l'argent en procès qu'il ne gagnera pas. Mais... n'oublions pas que le système de Fortnite était biaisé dès le départ, c'est-à-dire qu'ils offrent une appli gratuite dans laquelle Apple investit tout son merchandising, ils la mettent sur toutes les plateformes de la Terre. Donc Apple, ça leur coûte de l'argent, c'est fait pour les petits développeurs, ceux qui n'ont pas les moyens, ce qui est loin d'être le cas de Fortnite. Et ensuite ils disent, ben maintenant on va faire toutes les achats in-apps. Donc ça sera pour nous, Apple touchera rien, mais on continuera à être sur tout leur store gratuitement parce que c'est une appli gratuite. C'est très malhonnête. Ils ont qu'à vendre l'appli 99$ ou 79$ comme un jeu de PS4 et ensuite ils mettent des options. Et là, oui, ils se partagent des revenus et là je pense qu'Apple l'accepte parce qu'ils toucheront quelque chose. Dire on se met à zéro et tout le profit sont pour nous, c'est très malhonnête, hein. Moi je suis pas d'accord.
Vers une réparation simplifiée des iPhone 12 et des iPhone 12 mini, Apple a passé l'info à ses partenaires de maintenance mardi. Plutôt qu'un remplacement pur et simple de l'iPhone en cas de panne ou de casse, par exemple de la vitre arrière, une nouvelle pièce va permettre de conserver l'iPhone existant et de ne changer que cette partie arrière justement. Alors, effort écologique de la part d'Apple pour éviter les déchets. Le 12 Pro et le 12 Pro Max apparemment ne sont pas concernés par cette évolution de la facilité de réparation. Est-ce que tu es au courant, toi, Ellie, avec tes magasins, parce que tu répares aussi ?
Oui, bien sûr. Alors, bon, officieusement, oui, parce que j'ai lu la même news que toi. Hein. Mais officiellement, je pense que l'info a dû arriver. Si c'était mardi, ça a dû arriver. Mais comme je disais hors antenne, en ce moment, on vit une période un peu spéciale chez nous parce qu'on a plusieurs absents pour des problèmes de Covid ou de vacances qui étaient déjà prévus à l'avance. Et en même temps, une avalanche de demandes SAV et commerciales parce que l'Apple Store du coin est fermé. Ce qui fait que ça fait quelques jours qu'au lieu d'être dans mon bureau et de recevoir des appels, des infos, des autres services, etc., je suis en boutique et j'accueille des clients du matin au soir. Et donc, du coup, certainement l'info est arrivée au SAV, mais elle n'est pas arrivée à moi pour l'instant.
D'accord, ça va venir.
Mais en tout cas... C'est des process, ils se mettent en route. Alors chez Apple, pour vous expliquer, à partir du moment où l'info arrive sur notre outil interne qui s'appelle GSX, qui est la gestion du SAV, ils nous disent, on va ouvrir un programme comme ça. Donc d'abord, il faut que tous vos techniciens se forment à la réparation telle qu'on vous l'indique. Donc il y a des vidéos, des tutoriels à suivre. Ensuite, il y a un examen à passer en ligne. Et une fois qu'on a passé l'examen et qu'on l'a réussi, on a le droit de recevoir ou de commander les pièces qui vont nous permettre de faire cette réparation. Donc ça va être certainement l'histoire de quelques jours. J'ai des techniciens qui font ça très très vite, mais qui en ce moment sont plutôt débordés. et ça va se mettre en place. C'est vraiment une affaire de quelques jours, je pense.
Peut-être que tes centres de maintenance sont au courant de ce bug sous macOS Big Sur qui a posé des problèmes à certains au moment de l'installation.
Ah, oh, bah oui. Oh. On en a tellement parlé de ces bugs. Big Sur, et pour l'instant, évidemment, il est sur toutes les nouvelles machines et en particulier les machines M1, mais les autres qui arrivent maintenant sont installées en Big Sur. Donc, on maîtrise de plus en plus. On a mis longtemps, c'était pas facile. Apple a bugué dans l'installeur jusque pratiquement à mi-janvier, puisque dès qu'on essayait de réinstaller le système, ils nous envoyaient le mauvais et ça plantait. Donc, ça, c'était pas facile. Et puis, ils ont sorti la 11.2, mais il y avait un problème, c'est qu'ils ne calculaient pas la taille de l'installation. Donc, quand vous avez une machine neuve et qu'elle est vierge, bah, c'est super, hein, ils l'installent. Mais quand vous avez une machine et que normalement Apple vous dit qu'il vous faut 20 gigas de libre pour installer le système, mais qui ne calcule pas la taille d'installation, des fois, il peut y avoir plantage, il peut y avoir perte de données. Et donc, Apple a très, 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 très vite sorti un correctif. C'est quand même après... Je sais plus combien d'années de macOS, puisque macOS, si je me rappelle, c'était en 2001. Ils ont quand même l'expérience des installations système. Donc, le calcul de la place nécessaire pour installer un système, ils connaissent, hein.
Oui.
Eh ben non.
En fait, l'installeur ne calculait pas l'espace dispo et lançait l'install en supposant qu'il y avait la place.
Oui.
Mais s'il n'y avait pas la place, c'était la cata.
Cata.
Vous avez droit à une boucle sans fin dès que le disque devenait plein, saturé. Et donc, il y a un nouvel installeur pour la 11.2.1. Pour le reconnaître, il y a le numéro de build, vous savez, cet identifiant qui est sous le numéro de version. Donc, faites attention à bien utiliser l'installeur build 20D75. Parce que vu la galère que c'est quand ça arrive, je vous conseille vraiment de ne pas vous tromper et si vous voulez vraiment être sûr, faites bien de la place sur votre disque dur dans tous les cas.
Et dans tous les cas, faites une sauvegarde. Hein. Surtout, faites une sauvegarde avant.
Absolument. Anthony.
Et si jamais ça arrive, c'est quoi la manip? Je suis chez moi, je fais la mise à jour, je me fais avoir.
Ça se plante.
Ouais.
Tu pries que tu aies une sauvegarde parce que généralement, ouais, tu vas aller dans un centre de maintenance où tu vas faire une réinstallation, une recovery. Ouais. Qui va te perdre tes données et que tu vas remettre si tu as une sauvegarde. Si tu n'as pas de sauvegarde, tu es plutôt mal.
Ouais.
Ouais.
D'où l'importance de faire des sauvegardes avant.
Absolument. Exactement. Absolument. Ellie, on parle d'Office sur iPad en version unifiée.
Oui. Alors, on avait vu ça déjà sur l'iPhone. Où au lieu d'avoir toutes les applis, Microsoft avait fait une appli, Office, où il y avait Word, Excel, PowerPoint. Et en fait, c'était des menus, ce qui est pas mal, ça, c'est plus facile à installer. C'est moins bien parce qu'on a tellement l'habitude d'utiliser Office qu'on a l'habitude de nos applis avec nos menus, etc. Donc là, c'est un peu tout mélangé. On peut mettre du PowerPoint dans du Word tout en faisant de l'Excel. Donc, on a un peu de mal, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ils ont décidé de faire la même chose sur l'iPad. Et comme l'écran est plus grand, ils ont rajouté des petites fonctions, le split screen, des choses comme ça. Donc, le stylo, donc... Bon, c'est leur volonté. Après, ils ont profité discrètement pour redéfinir quelle est la taille minimum de l'écran à partir de quelle la version devient payante, puisqu'avant, seul l'iPad Pro, et si je me rappelle bien, l'iPad Pro 12 pouces 9 était payant. L'iPad Pro 11, comme le 9 de l'époque, etc., c'était des versions gratuites, puisqu'ils avaient défini que à moins de 12 pouces, c'était gratuit, à plus de 12 pouces, c'était payant. Bon, ok. Sauf que là maintenant, c'est au-delà de 10 pouces, c'est payant, donc ça veut dire que l'iPad Air, ben, c'est payant.
Attends, qu'est-ce qui est payant? Parce que Office a toujours été payant.
Non, quand Office sur iPhone, par exemple, est gratuit. Office sur iPad, avant le Pro, était gratuit. Le 12.9 était payant.
Ah, mais
donc, si tu l'installais sur un iPad 8e génération ou sur un iPad Air, c'était gratuit avant.
Oh là, j'apprends quelque chose là.
Maintenant, non. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est plus le cas. C'est toujours le cas sur un iPad mini. Sur un iPad mini, ça reste gratuit. C'est du 7 pouces. Sur un iPad 8e génération, il est en 10.2. J'ai un doute. Mais en tout cas, sur l'iPad Air et sur les iPad Pro, c'est payant.
Voilà. Donc, c'est la mauvaise nouvelle du jour.
Il fallait bien, c'est la tendance de cette émission, vous allez voir, c'est que des applications qui étaient gratuites avant.
C'est ça, oui, parce que tu nous en parlais il y a 3 semaines dans l'épisode 23, c'était même ton plat de résistance au moment de ton dîner, LastPass, le gestionnaire de mots de passe que tu plébiscitais, bah, il va devenir un peu moins séduisant à partir du 1er mars.
Ben oui. Parce qu'en plus, au lieu d'être multi-appareil, ce qui était un de ses intérêts, pouvoir synchroniser entre son iPhone, son Mac ou son iPad les mots de passe, c'est quand même l'intérêt d'un gestionnaire de mots de passe, ben là, il ne fonctionnera plus que sur un seul appareil gratuitement et sinon, il faudra payer. Ce qui, du coup, le met un peu loin dans la liste puisque le 1Password, lui, était gratuit, je crois que sur iPhone et payant sur le Mac, à moins que je me trompe. Hein. Je laisse les auditeurs me corriger parce que je ne l'ai pas installé. Mais je sais qu'il était déjà gratuit alors qu'il était excellent, mais au moins sur une des deux plateformes. Et ça commence à être vraiment une mauvaise habitude. Ils appâtent le client en disant « Regardez, nous, c'est gratuit, c'est génial, etc. » Et puis, une fois que tu l'as installé et que tu ne peux plus t'en passer, boum, tu payes. Et d'ailleurs, j'ai un exemple bien pire, bien, bien pire que celui-là. Je vais vous en parler car c'est mon coup de gueule de la semaine.
Ah, c'est tout à l'heure dans iWeek, yes. La semaine Apple, le podcast. Avant de passer au sujet suivant de ce JT de la semaine, Anthony, tu utilises un gestionnaire de mots de passe, toi ?
Eh bien, pour l'instant, j'arrive à me débrouiller sans, en ayant des mots de passe différents partout.
D'accord.
Que j'ai une vieille technique. C'est beau la jeunesse, hein.
Ouais, mais je pense que ça va pas durer parce que non. En fait, une fois quelqu'un m'avait donné une technique qui marche bien, c'est d'avoir bon un mot de passe relativement compliqué à chaque fois, mais une base constante et une variable selon tel ou tel site, etc. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir en ayant une base constante, on s'en rappelle déjà assez facilement. Et la variable découle directement du site concerné. Je ne sais pas si c'est très clair, mais jusqu'à présent, ça marche. Donc, je maintiens cette système. Technique-là. Ouais.
Oui, donne pas trop de détails, parce que sinon, il suffit que quelqu'un trouve ta base et après, ils vont aller sur tout.
Oui, c'est pour ça.
On est entre nous, tu peux donner la base et puis...
Non,
alors la base, c'est la même que le code de carte bleue, donc c'est très facile.
Bon, allez, plus sérieux, la Technical Preview 2 de Parallels 16 pour Mac M1, j'espère que vous avez bien suivi, est dispo avec des nouveautés. Alors Parallels, je ne sais pas si tu connais ce logiciel, Anthony.
Pas du tout.
C'est le logiciel de virtualisation le plus connu. Autrement dit, c'est le logiciel qui permet de faire tourner, par exemple, Windows sur un Mac ou n'importe quel système d'exploitation. Alors, des nouveautés, mais encore de grosses limites, parce que cette version de Parallels pour Mac M1 reste limitée au seul système d'exploitation sous ARM. Or, Windows en version ARM existe, mais n'est pas disponible, enfin, seulement à ceux qui font partie du programme Insider. Donc ça fait très peu de monde. Malgré tout, la stabilité progresse et plusieurs soucis qui étaient apparus avec la Technical Preview 1, donc on parle vraiment de logiciels en phase de développement, ont été réglés. Voilà, work in progress comme on dit. Et alors si vous voulez tester cette Technical Preview 2, bon, y a un lien qui est complètement obscur, mais si vous voulez y arriver, je vous donne cette adresse my.parallels.com/desktop/beta. Comme toujours, faites hyper attention, évidemment. Pas sur un Mac de production avec tous vos fichiers clients, par exemple. Voilà, on parle de logiciels en phase de développement. Faites hyper attention. Je sais que c'est un logiciel que tu as beaucoup utilisé. Eli, je ne sais pas si tu l'utilises encore.
Je l'utilise énormément. Je l'utilise tous les jours, mais pas sur un Mac M1. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des choses qui ont fait que je ne peux pas, pour l'instant, passer au M1. Parce qu'il y a, moi je m'en sers vraiment vraiment tous les jours. D'abord j'utilise Windows des fois quand il faut faire des démonstrations ou installer des logiciels que des clients veulent voir avant d'acheter un Mac et qui tournent sous Windows, des médecins par exemple, des dentistes qui utilisent des logiciels qui ne fonctionnent que sous Windows, hein. Pour eux c'est une condition sine qua non. Mais aussi parce que notre système de gestion, je sais que j'ai très honte, je le dis à chaque fois, et les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, nécessite une version de macOS plus ancienne, pas une version 64 bits.
Ah oui.
Et donc, du coup, je virtualise une ancienne version de macOS dans macOS, et paradoxalement, ça tourne beaucoup plus vite que sur les machines de l'époque, hein, même virtualisées. Donc, en fait, j'ai un système qui est plus rapide qu'avant. Mais avec le M1, je suis pour l'instant... très très embêté et deux petites précisions, c'est que on a interrogé Parallels, nous on les suit depuis que la société existe, hein, depuis même la Parallels 1.
Hein. Ça donc fait très
on connaît
longtemps,
un peu tout le monde là-dedans, on est à la 16, hein, donc tu parles, ça fait quelques années, il y en a une par an, hein, donc ça fait 16 ans au moins qu'on utilise.
Ah, plus que ça.
Ou même plus, oui, même plus que ça. Et donc les infos qu'on a sont pas très encourageantes, c'est-à-dire que tout ce qui est Unix, Linux, toutes les différentes variantes, tout ça, ça va marcher sans problème. Windows pourrait marcher, mais là, eux, ils montrent qu'ils vont être capables de le faire tourner. Mais après, on aura un problème, c'est que Microsoft, pour l'instant, ne commercialise en aucune façon une licence ARM de Windows 10. Ils le font tourner sur une de leurs Surface Pro, et point, c'est tout. Donc, ça veut dire que si Parallels arrive à faire tourner Windows, c'est très bien. Oui. Sauf que le client qui va venir chez nous en disant « je veux un Parallels et je veux un Windows », on ne peut pas lui vendre, ça n'existe pas dans le catalogue.
Oui.
Et qu'en plus, il y a quand même des petits soucis de compatibilité. Et que du coup, Microsoft, si ce n'est pas eux qui les règlent, Parallels ne peut pas se substituer à Windows dans certains drivers, dans certains types d'affichage, dans le support de certains périphériques. Ça peut être compliqué. Et en ce qui concerne macOS, puisque nous, on l'a demandé, moi j'ai envoyé un mail au vice-président technologie chez Parallels, auquel j'ai eu une réponse du style « Parallels ne commente pas sur les développements en cours », ce qui est toujours très intéressant comme réponse. Mais j'ai un de mes clients qui est avocat, qui utilise lui une version et qui est indispensable et qui lui a écrit en tant qu'avocat. Et on lui a répondu « Monsieur, nous sommes désolés, macOS ne sera pas émulé dans Parallels. » Point. Donc, ce qui là,
macOS
par contre,
ou Windows ?
Non, enfin là on ne parle pas de Windows, on parle de macOS, ah, pardon.
D'accord.
Parallels, macOS ne sera pas, excuse-moi, peut-être j'ai mal dit, macOS ne sera pas émulé sous M1 parce que ce n'est pas leur priorité et ils ne veulent pas émuler le code x86 qui est le code qu'utilise Apple depuis des années et des années et des années et des années.
Ouais. Mais comment tu vas faire, toi,
alors ? C'est un code Intel. Eh bien, ça veut dire que si c'est le cas, premièrement, moi, à part changer notre système de gestion, ce qui finira par arriver un jour, hein, je ne pourrai pas utiliser une machine M1, même quand il y aura ce beau 16 pouces que j'attends, parce que sinon, ça veut dire que je me coupe de ma gestion. Et alors, j'ai deux ordinateurs, je garde un ancien pour faire la gestion et un nouveau pour m'amuser. Mais que ça va aussi freiner certains clients, des avocats, des médecins qui utilisent des logiciels nécessitant une émulation. Ben, si Parallels ne le fait pas, étant donné que VMware est sur le même chemin, ça veut dire soit il y a une impossibilité technique, soit il va falloir qu'un jour ils s'y penchent sérieusement, sinon ça va nous faire perdre des ventes de Mac M1 et Parallels, ça va leur faire perdre énormément de ventes, hein, parce que tout le monde ne l'achète pas pour utiliser que Windows, surtout dans une version de Windows qui n'existe pas.
Mais oui. Très intéressant. Tu utilises d'autres systèmes que le Mac, Anthony, ou pas du tout ?
Oui. je quotidiennement, je suis aussi sur un PC.
Ouais.
C'est mal, tu le sais.
Ouais, ben ça me fait mal déjà tous les jours. et non, c'est vrai que
t'as beaucoup de mérite.
C'est un enfer, ouais.
Ouais.
Très compliqué. Puis c'est pas un PC tout récent, etc. Donc déjà ouais. L'allumage est long. Enfin bon, c'est. Je vous passe les détails, c'est un calvaire.
Oui. On compatit.
Bon, tu es pardonné.
Pardon, Ellie.
Non, j'ai dit tu es pardonné parce qu'il se répand de devoir l'utiliser, donc on le pardonne.
Ouais, c'est pas un plaisir.
Le chargeur Belkin MagSafe pour iPhone 12, AirPods et Apple Watch est dispo en France depuis 24 heures en gros. Si vous avez été à l'écoute la semaine dernière, il s'agit du Boost Charge Pro, c'est la version 3 en 1 du produit que Jean-Christophe testait la semaine dernière en version 2 en 1. Alors il est dispo en blanc et en noir. Avec donc l'iPhone qui se recharge en 15 watts, la Watch à côté qui sont chacun sur un bras en acier inoxydable, et puis les étuis d'AirPods que vous posez sur le socle à induction. Voilà, le prix est pas léger, hein, 149,95€, et on le trouve uniquement sur l'Apple Store.
Tu as dit ça juste pour m'énerver.
Voilà. Le téléphone 5G le plus apprécié aux États-Unis n'est autre que l'iPhone 12. Pro Max. Et oui, Apple place 3 de ses iPhone 12 aux 3 premières places. de ce classement qui compte 33 smartphones. Classement établi par Ookla, le propriétaire du fameux speed test qu'on utilise tous pour mesurer les débits sur notre mobile, et M-Science. C'est donc l'iPhone 12 le plus cher qui l'emporte, alors que bah, tous les modèles d'iPhone 12 sont 5G. Victoire écrasante dans 49 des 50 États américains pour l'iPhone 12, à l'exception du Vermont, où c'est le modèle Pro qui termine numéro 1. Alors au niveau des US, l'iPhone 12 Pro Max devance donc l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, devant le Samsung Galaxy S20 Plus qui est 4e, le Samsung Galaxy S20 Ultra qui est 5e, et il faut descendre jusqu'au 14e rang pour trouver un autre fabricant qu'Apple ou Samsung, en l'occurrence LG avec son V60 ThinQ. En revanche, l'iPhone 12 mini n'est pas dans le classement du tout, ce qui est une surprise. Est-ce que c'est un téléphone qui se vend bien, Ellie ?
Alors, c'est, on en a parlé et je vous avais dit que bizarrement, il se vendait moins que les autres, mais qu'on était confiant. Et Apple, on avait lu qu'ils avaient d'ailleurs arrêté une des chaînes de production pour la reporter sur le 12 Pro parce qu'ils devaient soit avoir du stock, soit qu'ils se vendaient moins que prévu. Ouais. À peine avons-nous dit ça dans l'émission qu'on s'est mis à vendre des iPhone 12 mini. Va savoir pourquoi.
C'est pas vrai.
Cette
c'est
semaine, vrai on vend des iPhone 12 mini. Je ne sais pas pourquoi.
Mais non.
Mais si.
Mais tu l'avais prévu en même temps. Souviens-toi, tu disais que les Max et Max Pro allaient se vendre majoritairement oui au début.
C'est sûr.
C'est vrai, hein, c'est ce que tu avais dit. Hein.
Et, oui, oui, et j'avais dit le 12 et le 12 mini mettront un peu plus de temps, mais rattraperont le retard. C'est ce qui s'était passé avec l'iPhone 11. Là, ça a pris encore un peu plus de temps parce que le 12 s'est vendu, mais le 12 mini, c'était un modèle supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un comme le 11, on en a eu deux. Et d'abord, ça a été le 12. Et puis ensuite, le mini, je ne sais pas si c'est parce qu'on s'approche du printemps, mais on a une clientèle de femmes, bizarrement, alors que normalement on vendait du Pro Max parce que les femmes généralement ont un sac à main et c'est très facile pour elles de mettre un téléphone dans le sac à main, alors que dans une poche de jean, c'est un peu plus compliqué un Pro Max. Et là, bizarrement, on a des jeunes femmes qui achètent le mini parce qu'elles le trouvent très mignon et que c'est facile à mettre dans une poche de jean parce que c'est des jeunes femmes qui n'ont probablement pas un gros sac. Donc c'est une histoire d'âge, va savoir. Mais et comme elles ont des bons yeux parce qu'elles sont jeunes, ben un 5 pouces 4 ça passe très très bien.
Eh oui. Toi Anthony, c'est quoi ton smartphone ?
Alors c'est le 12, normal. J'avais un 8 plus depuis 3 ans, qu'il était temps de changer. Et puis je dis bon allez là c'est la 5G, donc moi je suis plutôt dans l'optique de les garder au moins 2-3 ans. Ouais. Donc je me suis dit bon ben là c'est l'occasion, et si le mini était sorti en même temps que le 12, peut-être que j'aurais plutôt penché pour le mini. C'est le form factor, je trouve hyper intéressant. J'aime pas la course au grand smartphone en fait. Et ma compagne qui était sur un 7 donc depuis quelques années, elle voulait pas changer parce que ils étaient trop grands. Et puis le 12 mini est arrivé, on a suivi la keynote en direct d'ailleurs avec vous. Et donc elle a dit ah ouais celui-là pourquoi pas, donc les tailles etc. Quand il est sorti elle a vu la taille etc. Et finalement ça a matché, elle a pris le 12 mini. Ouais.
Super. Plus globalement ton environnement Apple c'est quoi, Anthony?
Oh ben il est assez assez sobre. J'ai moi l'iPhone 12, un MacBook Pro 13 de 2018 qui marche encore super bien.
Ouais.
Et on a un HomePod aussi à la maison. Très bien. Donc on utilise plus comme une enceinte que comme un assistant vocal en fait. Il est placé de manière assez centrale en fait dans la pièce principale et on l'utilise vraiment pour écouter la musique, mettre des minuteurs, etc. Enfin, c'est un produit hyper hyper pratique, hyper bien. Donc voilà. Et après en écosystème, enfin plutôt en service, j'utilise le cloud, iCloud, ouais. Donc pour mes sauvegardes, etc. Tous les jours, je fais des sauvegardes.
C'est bien ça.
C'est assez psychorigide des sauvegardes. J'en fais donc sur le. J'ai mes fichiers sur le Mac qui sont donc dans le cloud et je fais les sauvegardes de l'iPhone tous les jours. Et l'abonnement Apple TV+, qui a été gracieusement offert par Apple, donc on en profite. Il y a peu de contenu, mais hyper qualitatif dessus, oui. D'ailleurs.
On est
mais
tous
le
d'accord
contenu
là-dessus.
Va s'améliorer,
ouais,
au fur et à mesure.
Et il y en a de plus en plus, hein.
Oui, ouais, c'est vrai.
Il y en a de plus en plus. Malwarebytes, je sais pas si vous connaissez cet éditeur de logiciels antivirus, notamment, et de sécurité. Malwarebytes est catégorique en 2020 sur Mac. La menace logicielle a... Elle a
diminué.
Quoi, Anthony, à ton avis?
Augmenté.
Diminué.
Elle a diminué. Moins 38% par rapport à 2019. Alors, c'est vrai, dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, les menaces en France sur Mac, c'est à peine 10% de ce qui est mesuré aux US. Les US qui sont donc premiers en termes de menaces, loin devant le Royaume-Uni, le Canada et donc la France qui est quatrième. Enfin, petite info comme ça, si vous passez devant un kiosque à journaux ou si vous allez simplement sur le site web de Time Magazine, si vous regardez la couverture du dernier numéro avec Marcus Rashford, le footballeur en une, il est assis sur un tabouret avec un ballon de foot à ses pieds. Eh bien, cette photo n'a pas été prise avec un appareil photo très cher et très 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 haut de gamme, mais par un iPhone. Et c'est la troisième fois qu'un iPhone est utilisé pour une couverture du Time. La première fois, c'était en 2012, et donc il y a presque 10 ans déjà. Hein.
Ben oui, on a fait des progrès.
Allez, dans un instant, après les infos, on passe aux rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, on commence avec les nouveaux iPad Pro. Alors, on vous en parle depuis l'an dernier, de cette keynote qui approche. On l'imagine. Et nous, on parle toujours du mois de mars et ça semble tenir la route. Pas de changement à attendre au niveau du design, ça, on le sait, parce qu'il est quand même très très bien. En revanche, il pourrait y avoir une petite révolution au niveau de l'écran puisqu'on parle de l'arrivée de la technologie mini LED. Alors, le mini LED, il a les mêmes avantages que l'OLED en termes de contraste, mais il n'a pas les inconvénients. Il est plus lumineux, il consomme moins d'énergie, ce qui est hyper important pour l'iPad. Et puis, bon, c'est secondaire, mais il y a moins de risques qu'il s'enflamme. Bon.
Moi, je n'ai pas vu beaucoup de flammes sur des OLED, mais en tout cas, il y a des phénomènes de marquage dans l'OLED. Il faut faire très attention au marquage. Et pour un moniteur, ça peut être important parce qu'un téléviseur, en principe, l'image bouge tout le temps. Un moniteur, vous pouvez laisser une feuille Excel pendant 4 heures. Il ne faut pas que l'écran, vous le retrouviez avec une marque Excel toute votre vie. Quoi. C'est...
Bien sûr.
Donc, ça peut être bien.
Voilà, donc sans doute les nouveaux iPad Pro, comme on le pressent depuis des mois, le mois prochain en mars. Oui. On parle aussi du lancement, peut-être le même jour, peut-être donc lors d'un événement Apple, des fameux AirTags, vous savez, ces petites balises GPS qui permettraient de retrouver un sac ou une valise grâce à l'appli Apple localisée.
Voir un iPhone... enfant, voir un chat, voir...
Voilà, c'est ça. Sur votre maîtresse, sur tout ce que vous voulez.
Partout.
Un iPhone pliable de 7 pouces avec Pencil en 2023. Est-ce que ça te ferait rêver, Anthony ?
Pas du tout. Non, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça moche. Vraiment. Je suis pas du tout attiré par cette technologie. Je pense que ça finira un jour par arriver, et puis que ce sera la nouvelle norme, et on adorera tout ça dans quelques années peut-être. Mais là, vraiment sur le papier, tout ce que je vois ne m'attire pas du tout.
En tout cas, cet iPhone pliable de 7 pouces, il est attendu en 2023 par un cabinet de recherche canadien. L'écran pliable serait un écran OLED. Il mesurerait, alors c'est précis, hein, entre 7,3 et 7,6 pouces. Et notre ami John Prosser, il prédit un design à clapet. Alors, un peu à l'image du Galaxy Z Fold, du Galaxy Z Flip, pardon. On a vu des affiches dans la France entière ces dernières semaines. Selon Economic Daily News, des prototypes sont même actuellement en cours d'évaluation chez Foxconn, qui fabrique les iPhones pour Apple à Taïwan, avec des tests de résistance, 100 000 ouvertures et fermetures, soit 3 fois plus que les tests infligés à la charnière des Mac portables. Peut-être que ce sera la gamme iPhone 14, mais on n'en a aucune certitude. Et puis à propos du Pencil, Apple travaillerait sur des pointes interchangeables pour étendre l'intérêt du stylet et lui ouvrir de nouveaux horizons en fonction donc de la pointe que vous choisirez d'utiliser. Alors parmi les accessoires MagSafe, Apple en a apparemment encore sous le coude, puisque la bêta 2 d'iOS 14.5 évoque une batterie dotée de la technologie MagSafe. Alors on ne parle pas d'un étui, hein, mais vraiment d'une batterie qui viendrait se plaquer au dos de l'iPhone pour le recharger à 90%. Apparemment, c'est ce qu'on voit dans le code de cette bêta d'iOS. Et peut-être en 15 watts, ce que ne font pas les batteries MagSafe proposées aujourd'hui par les fabricants d'accessoires. L'Apple Car encore, Ellie. Une nouvelle série de brevets attribués à Apple en rapport avec la sécurité, comme la configuration automatique des sièges. Et tu le disais, on parle de plus en plus d'une voiture sans volant. Alors peut-être que ce sera cette navette plutôt destinée aux entreprises. En tout cas, c'est la conviction des analystes de chez Morgan Stanley. L'iPhone 13, on se rapproche, hein, c'est pas le 14, c'est le 13, c'est l'an prochain. L'iPhone 13 embarquera...
C'est même cette année. Hein,
c'est même, oui, t'as raison. Puisqu'on a changé d'année, j'ai du mal parfois à l'intégrer. Nous sommes en 2021. L'iPhone 13 embarquera-t-il un mode astrophotographique ? Autrement dit, quand vous pointerez vers le ciel la nuit, est-ce que l'iPhone basculera dans un mode qui permet de capturer les étoiles et la lune ? Alors la rumeur vient de YouTubers, il s'appelle Everything Apple Pro. Et il se trouve que notre cher ami Ming-Chi Kuo, l'analyste le mieux renseigné de la planète Apple, s'attend lui aussi à une amélioration sensible des capteurs pour la prochaine génération d'iPhone. Mais on ne sait pas s'il s'agira simplement d'un mode nuit amélioré ou de cette fameuse fonction astrophotographique.
Pour l'iPhone 13... Pose-nous la question à tous les deux. Est-ce qu'on achèterait un iPhone juste parce qu'il prend des photos des étoiles? Tu vas voir la réponse.
Je te pose la question. Je crois que je l'ai, la réponse.
La réponse est non.
Oui. Enfin,
je pense que je prendrais une photo dans ma vie des étoiles si je vais un jour en Norvège voir une aurore boréale.
Aurore boréale, c'est ça.
Mais il fait trop froid, donc ça risque pas.
Et toi, Anthony, t'as un intérêt pour le ciel ?
Non, bah c'est le truc que tu fais au départ, dans les 4 premiers jours où tu l'as, l'iPhone, pour impressionner les copains. Après, je pense, pour faire un peu de photos, qu'il faut il faut quand même un sacré capteur et surtout un sacré objectif pour pouvoir faire ça. Il faut des très grands angles, avec des sacrées ouvertures, etc. Je pense que si, effectivement, il l'implémente, il y aura surtout le logiciel qui va beaucoup travailler derrière, plus que le matériel finalement en lui-même.
Absolument. Moi, je ne suis pas sûr non plus de changer d'iPhone juste pour pouvoir prendre des photos de la Lune. Mais je demande à voir, hein, si effectivement c'est une fonction qui arrive. Je demande à voir. Et toujours à propos de cet iPhone 13, on parle aussi d'une dalle OLED qui resterait toujours allumée en consommant très peu d'énergie, un peu à l'image de l'écran de l'Apple Watch, n'est-ce pas, Ellie ?
Oui, mais j'ai vu ça aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. On va demander à Anthony ce qu'il en pense, mais un Apple Watch, je comprends, parce que tu regardes l'heure, tu t'attends à trouver l'heure. Un iPhone que tu mets dans ta poche ou que tu mets dans un sac, quel est l'intérêt qu'il reste allumé dans le sac ou dans la poche puisqu'on ne le regarde pas ? Donc, bon, si ça le fait, ça le fait, très bien, mais... Oui. Franchement.
Ouais, d'autant plus que j'ai l'impression que c'est une rumeur qu'on a chaque année, ça, non ?
La rumeur, c'était sur les 120 Hz. Et je pense que cette fois-ci, dans l'iPhone 13, on aura un écran balayé à 120 Hz. Ouais. Ça va faire plaisir aux gamers. Ça, OK. Mais qui reste allumé tout le temps dans l'iPhone ? Non, moi, c'est la première fois que je la vois. Ah, oui. Mais encore une fois, est-ce que c'est un game changer, comme on dit ?
Ça, plus l'astrophoto, c'est bien maigre, en tout cas, comme raison de changer, quoi.
C'est ça. Je pense qu'ils ne savent pas encore ce qu'il va y avoir dedans et ils cherchent de tous les côtés. Hein. Bon, s'il fait le café, je ne dis pas. Mais il y a des choses qu'ils pourraient faire qui seraient bien. Par exemple, ils pourraient charger des accessoires. Puisque, rappelez-vous qu'à un moment donné, le MagSafe, même de l'iPhone actuel, était censé charger des accessoires comme des AirPods, par exemple, en cas de besoin. Ça serait bien si un jour, ça le faisait. Voilà. Déjà ça.
Allez les amis, on se retrouve dans un instant pour passer en revue les mises à jour de la semaine. À tout de suite. Mmh. Les mises à jour de la semaine. Alors, pas de mise à jour officielle définitive, hein, Ellie. En revanche, une deuxième bêta en 14.5 pour nos différents devices. On va commencer par iOS. De plus en plus de nouveautés apparaissent hein, dans ces bêtas.
Oui, ça risque d'être une grosse mise à jour. Hein.
Ouais. Hein. Alors, à commencer par ces emojis, hein, il y en a pas 5, il y en a plus de 200 oui. qui font leur apparition. Alors, je passe sur la seringue qui n'est plus pleine de sang.
Avec une goutte.
Quelle idée. Voilà. L'emoji qui représente le casque audio, c'est plus un casque basique, évidemment, c'est un AirPods Max. Apple
comme
a raison.
Bizarre.
Hein. Voilà. Quand on peut se faire un petit peu d'auto-promo, c'est toujours bon à prendre. Et puis, une nouveauté qui doit t'intéresser, Ellie, parce qu'elle concerne les paroles des chansons.
Oui. Ben oui, mais j'ai regardé. Alors, tu sais que c'est un sujet qui m'a intrigué, d'autant plus que plein de gens avaient les paroles et moi je les avais toujours pas et j'ai compris. J'ai fini par comprendre et demander à Apple en disant j'en peux plus, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a les paroles si on est abonné à Apple Music. Et c'est d'ailleurs le cas, là on peut les partager. Alors qu'au début, si tu avais les paroles dans ton iPhone, parce que moi par exemple j'ai une application qui récupère automatiquement les paroles et qui les intègre. Des fois, je fais des copier-coller manuels parce que je suis psychorigide dans ce domaine. Je veux que mes chansons aient des paroles. Donc du coup, je vais les chercher. Il y a des tas de sites internet où ils y sont et je les rajoute. Et l'Apple TV m'affichait mes paroles parce qu'elles font partie de mes tags dans les chansons et qu'elles y sont. Et Apple l'a bloqué. Donc, si tu n'es pas abonné à Apple Music, t'as beau avoir des chansons avec des paroles, il ne t'affiche pas des paroles. Donc, déjà, ça m'avait beaucoup énervé. Donc, du coup, j'ai regardé cette info en disant « Ah oui, ben, je vais pouvoir les partager. » Mais non, en fait, c'est oui et non. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'écouter une chanson où vous avez les paroles parce que vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez partager 2-3 lignes. Ce n'est pas les paroles complètes synchronisées. Vous pouvez partager un truc qui vous a fait plaisir dans la chanson avec un ami. Ça va paraître comme une sorte de story Instagram en disant « Oh, qu'est-ce qui est merveilleux dans cette chanson. Regarde ces paroles. » Oui, super, garçon, très bien. Donc bon, ok. Intérêt limité, mais ouais, pourquoi pas.
Bon. Il y a une troisième nouveauté dans cette bêta 2 d'iOS 14.5. Ça concerne l'appli raccourci. Je ne sais pas si tu utilises... Raccourci, Anthony.
Je n'ose pas m'y lancer parce que je sens que quand je vais m'y mettre, je suis en train de connecter un peu l'appartement avec détecteur de fumée, mais sur les conseils de François d'ailleurs. Ça faisait un moment que j'y pensais, puis j'ai franchi le cap. Mais raccourci, je sais que c'est facile, mais
c'est puissant en tout cas. C'est
puissant. Oui,
et,
voilà.
Et assez simple.
Ouais, mais je sais que c'est chronophage après derrière.
Oui, c'est ça.
C'est ça, le truc.
Il y a de nouvelles actions qui sont prises en compte, comme par exemple le déclenchement d'une capture d'écran ou le verrouillage de l'orientation de votre iPhone, par exemple. Enfin, des subtilités qui vont permettre d'enrichir encore vos raccourcis programmés, entre guillemets. Du côté de l'iPad et d'iPadOS, Ellie, une bêta 2 aussi, avec une petite nouveauté qui concerne le micro de l'iPad.
Et c'est très important parce que c'est vraiment pour Apple dans la droite ligne de leur politique de sécurité et de confidentialité. Quand vous allez fermer la coque de protection, donc le Smartfolio, le micro des iPads sera déverrouillé. Et d'ailleurs, non seulement déverrouillé, que je raconte, sera bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un puisse écouter une conversation avec un iPad verrouillé. Et non seulement ça va marcher sur les coques Apple, puisque ça c'était la première info, mais du coup je me suis renseigné après, toutes les coques compatibles qui présenteront le logo Made for iPad, le MFI célèbre dans lequel la société verse des royalties à Apple, pourront utiliser cette fonction. Donc une coque achetée à droite et à gauche, mais Made for iPad, et qui se verrouille magnétiquement, verrouillera plutôt le micro à partir du moment où l'iPad est verrouillé. Et ça c'est très important.
Alors, dans tvOS aussi, une petite nouveauté qui concerne aussi le son, mais pour des raisons différentes. Les caméras HomeKit, via un Apple TV, peuvent désormais streamer l'audio qu'elles captent en utilisant des applis tierces. Toi qui utilises des caméras HomeKit, Ellie, tu dois davantage mesurer la portée de cette nouveauté.
Oui, c'est pas mal parce qu'en fait, ces caméras, c'est plutôt de la surveillance. Par exemple, vous avez une caméra qui pointe vers votre portail. Vous êtes en train de regarder un film tranquillement sur votre Apple TV. Quelqu'un sonne. Alors normalement, la caméra capte le flux et doit faire apparaître en image superposée le flux vidéo qui indique qu'il y a quelqu'un à votre portail. Mais si en plus, ça sonne, c'est mieux parce que ça fait ding-dong et du coup, on va se dire « Ah, tiens, il y a quelqu'un !» Parce que des fois, on ne regarde pas forcément qu'il y a quelqu'un devant le portail. Donc c'est bien.
D'accord.
Je trouve ça pratique.
J'ai compris l'intérêt. Bon, là, tu as l'air de bonne humeur, Ellie, mais dans un instant, on va te retrouver pour ton coup de gueule de la semaine.
Oui.
À tout de suite. Le coup de gueule de la semaine, ça peut être la connerie de la semaine, je ne sais pas encore. En tout cas, Ellie, tu en veux beaucoup cette semaine à Facebook.
Oui, je leur en veux beaucoup parce que vous savez, ça fait déjà un moment qu'on parle de Facebook. Vous savez, c'est une boîte qui se croit maître du monde, qui censure tous les gens qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, et qui depuis quelque temps, et c'est pour ça que ça m'énervait déjà un tout petit peu, menace Apple de procès divers, menace Apple de les faire souffrir. Parce que il y a un des employés qui a enregistré Mark Zuckerberg, j'ai vu la vidéo, et il dit mais il faut qu'on les plie, il faut qu'on les fasse souffrir. Enfin, le mec, c'est un mégalo incroyable. Donc, va faire souffrir Apple, c'est cela même. Tout ça parce qu'Apple a durci les conditions de pistage, vous savez, dans les dernières versions des OS. Et donc, du coup, comme Facebook vit beaucoup de vendre des renseignements qu'ils prennent à leurs utilisateurs, ben, ils sentent ça comme une menace. Et du coup, ils ont même menacé Apple d'un procès antitrust. Alors, tu vois, si quelqu'un devait être antitrusté, c'est plutôt eux, mais bon. Donc, du coup, ça m'a énervé. Mais il y a quelques jours, ils ont vraiment dépassé les bornes des limites, Maurice. Je vous le dis, comme dans la pub. Parce que, figurez-vous, que Facebook avait créé, il y a un an à peu près, peut-être que vous l'avez utilisé, une extension qui est devenue d'ailleurs une appli iOS et iPadOS qui s'appelle Workplace. C'est aussi dans un site web. Et Workplace avait été proposé, et d'ailleurs, on était bombardé de pubs sur Facebook tous les jours, en disant « essayez-le, testez-le, etc. » C'est une sorte de Facebook pour groupe de travail, pour une entreprise. C'est-à-dire que la définition était, si vous avez plusieurs collaborateurs et qu'ils ont la même adresse mail, donc @mcs.fr, @iweek.news, par exemple, vous pouvez créer un groupe de travail et il y a deux versions, une qui est gratuite et une qui est payante. La gratuite vous permet d'avoir un fil de discussion qui ressemble à du Facebook, mais c'est totalement privé à l'entreprise. Vous pouvez chatter entre vous, vous pouvez créer des groupes. Nous, on a un groupe technique, un groupe commercial où on passe des infos. Vous pouvez faire du chat, vous pouvez faire de l'audio et de la vidéo pour se poser des questions. Et cette version a été annoncée comme étant gratuite. Point. Ils n'ont pas dit c'est une version d'essai, ils ont dit c'est une version gratuite. Si vous voulez une version plus complète avec des calendriers partagés, avec des petits bling-bling, elle est payante. Bon, donc c'est une version qu'on a mise en place. C'était une version qui était très sympa pendant le confinement parce que les gens étant dispersés, on pouvait transmettre des infos sur les mesures à prendre, sur toutes les infos de prévention et autres qu'on trouvait à droite et à gauche. Mais on a passé des semaines à créer d'abord les comptes parce que c'est un peu compliqué. Il faut créer les comptes individuels, mettre tous les renseignements sur la personne, son poste, j'en sais rien, sa date de naissance, son mail, son numéro de téléphone, etc. Nous, on est 27 dans les 4 magasins, donc il a fallu créer les 27 adresses, créer les groupes de travail, mettre les gens dedans. On a commencé à mettre des infos, donc des infos commerciales, des infos techniques, etc. Et du jour au lendemain, donc il y a quelques jours, on essaie de se connecter, ça ne se connecte pas. Donc on s'inquiète et ils disent non, c'est normal. Maintenant, la version est payante. Donc, soit vous payez entre 4 et 9 dollars par personne et par mois, soit vous n'accédez plus à vos données. Mais si vraiment vous insistez et que vous ne voulez pas payer, on va vous donner une sorte de porte qui va vous permettre de récupérer, on ne sait pas sous quelle forme, vos infos et débrouillez-vous avec. Donc c'est du chantage, moi je déteste ça, mais de toute façon l'accès ne marche pas. Donc comme les jours se sont écoulés, ça veut dire qu'on a investi des mois de travail pour mettre des informations, une FAQ. On a des tas de dialogues entre nous qu'on n'a pas sauvegardés forcément parce que c'était chez Facebook et que nous avons perdu. Tout ça, c'est un peu comme du ransomware. C'est vous avez bossé, maintenant soit vous payez, soit vous avez tout perdu. Eh ben, moi, j'aime pas les chantages, donc je considère qu'on a tout perdu, qu'on a investi des mois pour rien. Merci Facebook, ça nous apprendra à leur faire confiance.
Voilà. Bon, Élie, je sens que tu as besoin de te poser, de manger un morceau. Tu passes à table.
J'ai faim, du coup.
Allez. Allez, c'est l'heure du dîner d'Élie. À tout de suite. Bon, Élie, faut qu'on te change les idées, là.
Allez, on va essayer.
Tu files un mauvais coton.
Je vais immédiatement poster un truc anti-Mark Zuckerberg, tu vas voir. Non, bon. on va changer les idées. Donc, un petit dîner light, justement. Alors, on va démarrer avec une petite entrée en musique. Et alors, en musique, bon, ben vous savez que très souvent, moi j'ai des copains musiciens, je suppose que vous aussi, et très souvent et depuis très longtemps, les musiciens se plaignent qu'ils gagnent pas d'argent, que les maisons de disques, que les royalties, que la SACEM, que nalinalala. Bon, et donc, on a eu une info aujourd'hui même, hein, sur ce que payent certaines plateformes telles qu'Apple Music ou Spotify. Et en fait, ils payent, là c'est des chiffres américains, hein, ils payent quand même pas mal d'argent, hein, donc, puisque Apple est en tête, numéro 1 aux États-Unis, ils ont versé 163 millions de dollars aux artistes de royalty, donc, qui sont diffusés sur leur plateforme, ce qui est quand même pas mal. Ils sont suivis de près par Spotify avec 152 millions de dollars. Les autres, Deezer, etc., etc., ils suivent de très, 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 très loin. Donc voilà, c'était juste une petite entrée pour dire que Apple rémunère les développeurs, c'est vrai, mais ils rémunèrent aussi leurs artistes et que ça représente des fois des chiffres pas négligeables.
Bon, l'entrée m'a bien plu. Je te propose qu'on passe, n'est-ce pas, Anthony, au plat de résistance.
Allez, on attaque.
T'as faim, toi.
Alors,
aussi.
Alors, plat de résistance, justement, je vais repartir. Je suis désolé, hein, je vais faire monter la température et l'attention parce que j'ai décidé de vous faire c'est un petit clin d'œil pour mon camarade Jean-Christophe qui n'est pas avec nous ce soir. Donc, je vous ai fait un petit vu d'ici. Mais ça se passe ailleurs, bien sûr, hein, parce que je vais aller vous parler des GAFA, ou GAFAM, donc, puisque maintenant on inclut Microsoft. Et pourquoi je vais vous parler d'eux? C'est parce que, vous savez, il y a quelques semaines, je crois qu'on en avait parlé, hein, des sénateurs américains avaient convoqué presque manu militari les PDG de Facebook, Google qui le troisième que j'ai oublié, Twitter, pardon, Microsoft. Jack Dorsey. Et ils les avaient interrogés au Sénat, ils leur avaient fait des reproches, ils avaient même carrément engueulé, hein, parce qu'ils avaient commencé à censurer toute expression politique à l'époque qui ne leur plaisait pas. Et, mais vraiment, sans explication, c'est on censure qui on veut parce qu'on veut. Et du coup, c'était un peu tout à fait contraire à la liberté d'expression, au premier amendement de la Constitution américaine, etc. Ils avaient dit, circuler, il n'y a rien à voir, on fait ce qu'on veut, société privée, on fait ce qu'on veut. Bon, à l'époque, on était en pleine campagne électorale aux États-Unis. On n'a pas voulu faire de politique et on continue à ne pas en faire. Donc, le projet n'est pas allé bien au-delà, puisque ces mêmes sociétés contribuent des sommes énormes aux candidats à la présidentielle américaine, 90% pour le Parti démocrate, mais ça, je fais au passage, pas de politique. Mais maintenant que, parce qu'il y a quand même le rebond de pourquoi du comment, maintenant que les démocrates sont au pouvoir, président, chambre des représentants et Sénat, bon, et bien là, ils se rendent compte que les GAFA, ils sont pas gentils. Alors, ils les ont super défendu, hein, pendant cette audition. Moi, j'avais entendu les sénateurs, mais vraiment, ils avaient défendu, c'était leurs meilleurs amis de la Terre qui existent. Puis maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils se rendent compte que c'est quand même compliqué. Et alors, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que une sénatrice, c'est la sénatrice de Californie, en fait, hein, qui s'appelle Amy Klobuchar, qui est pas une des plus calmes, hein, et qui est californienne. Eh ben, maintenant, dans la nouvelle législature, elle préside le comité antitrust du Sénat et elle envisage des mesures de contrôle sur ces mêmes sociétés avec des amendes pouvant aller jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est quand même pas de la gnognotte, hein. Et c'est quand même, il y a à peine un mois et demi, C'était leurs meilleurs amis et maintenant c'est leurs pires ennemis. Alors ils veulent modifier l'article 230 dont on a parlé, qui les met à l'abri des poursuites, etc. Bon, c'est pas gagné, hein, entre parenthèses, hein, parce que c'est pas parce qu'une sénatrice veut le faire qu'ils vont les faire plier. Donc, mais c'est quand même rigolo que ce projet que les Républicains avaient poussé pendant des années et que Madame Klobuchar avait critiqué, hein, ben maintenant c'est elle qui essaye de le défendre. Et donc, écoutez, je voulais que vous dise, moi, les politiciens, hein, aucun sens moral, hein, mais bon.
Toi, tu alors, en penses quoi, Ellie, de cette histoire?
Je te donne mon avis personnel, hein, c'est parce que ça va au-delà, sinon c'était une anecdote, une histoire de loi défendue par les uns, par les autres. Moi, ce que je trouve vraiment personnellement, c'est qu'on est allé trop loin dans l'hyperlibéralisme et la mondialisation à outrance. On a vu ça pendant le Covid, on s'est rendu compte de trucs absurdes, d'un pot de yaourt qui faisait trois fois le tour de la Terre avant d'arriver sur le plat du consommateur, alors qu'il pouvait le produire à 10 minutes à pied. Hein. Donc on est dans des aberrations, les empreintes carbone, tous ces trucs-là, dans les trucs absurdes. Mais honnêtement, ma conception, et je suis plutôt libéral et plutôt capitaliste, hein, je suis chef d'entreprise, etc., mais je tiens quand même à un certain nombre de valeurs. Je trouve, et c'est vraiment ma conception, que les hommes politiques, les chefs d'État décident et les sociétés respectent les lois des pays où elles sont. Mais ça, ce n'est plus le cas. Maintenant, nous avons des groupes mondiaux qui font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et donc, les hommes politiques, certainement parce qu'on leur a donné pas mal d'argent, certainement parce qu'ils ne savent pas trop comment les contrôler, ont laissé faire. Et je trouve qu'on a vraiment dépassé les bornes. Je crois qu'il faut revenir à un contrôle par les hommes politiques de ce qui se passe au niveau mondial. Parce que, honnêtement, ce n'est pas un petit jeune qui a fait fortune parce qu'il a créé une app qui est devenue une méga société, etc., qui dicte son bon vouloir à l'ensemble des gouvernements de la planète. Moi, je trouve ça incroyable et dépassé. Je les ai traités de despotes, de jeunes despotes, mais franchement, je ne comprends pas que les hommes politiques se laissent faire et je pense qu'il faut revenir à plus de raison. Voilà. Là, tu vois, c'est monté un peu la température à nouveau. Donc.
Bon. À suivre,
mais en même temps, c'était presque une vue d'ailleurs, hein, donc j'étais un peu obligé d'émuler Jean-Christophe. Hein. Donc, modeste.
C'est pour ça que je termine comme Jean-Christophe, on peut dire à suivre, Ellie.
On va voir.
En tout cas, il y a un truc assez rigolo à relever. C'est non, pour tous ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont pas la vidéo, le t-shirt qu'a choisi Benjamin ce soir.
C'est vrai.
Avec un drapeau américain, il a fait fort. Bravo.
C'est un drapeau américain. Je ne savais pas.
Mais bon. On n'avait pas répété. C'est tout à fait dans le texte, voilà. Dans le ton. Est-ce que vous voulez un petit dessert quand même?
Ah bah oui, il est où le dessert?
Oui.
Mais oui, parce que là je vous ai fait un T-bone steak à l'américaine. Hein. Là, c'est vraiment le gros morceau, là.
C'est vrai. Le dessert, donc, bien sûr.
Le petit dessert, on va faire light et normand. Alors, pourquoi
c'est
normand?
C'est rarement light hein, quand c'est normand.
Oui, c'est pour ça.
Normand égale light crème et fraîche entière, tu vois.
Ouais, light et normand dans la même phrase. Bon. C'est vrai que c'est plutôt bizarre. Non, mais c'est le côté normand de peut-être ben que oui, peut-être ben que non, que j'ai voulu exploiter pour vous tenir au courant du mystère, car c'est un mystère, du support des applications iOS dans les machines Apple M1. Parce qu'alors là, franchement, la version 11.2 qui devait pas supporter les applications iOS, vous avez vu les différentes bêtas, certaines permettaient de le faire, certaines ne permettaient pas. Mais non, la version 11.2 est sortie. Bon, ok, elle a été remplacée par la 11.2.1 très très vite, hein, à cause de l'installeur qui calculait mal, etc. On en a parlé tout à l'heure, on ne revient pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre la 11.2 et la 11.2.1, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui fonctionnaient vendredi soir, qui ne marchaient pas lundi matin, et des applications inversement qui ne marchaient pas lundi soir et qui marchaient mardi matin, sans qu'on sache pourquoi. Il n'y a pas de règle du jeu. C'est vraiment, on ne sait pas. C'est le mystère.
C'est quoi ta conclusion, Elie, alors?
Bah, écoute, Ils perdent son latin. Donc, ma conclusion, c'est que ces applis qui marchent et ces applis qui ne marchent pas, franchement, c'est Apple qui marche, mais sur la tête. Il faut vraiment qu'ils nous expliquent.
Ça va se stabiliser tout ça, t'inquiète pas, Ellie. Prends tes gouttes, ça va.
Ça va pas ce soir, Ellie.
si. Mais...
Allez, on a besoin que tu sois en forme parce que dans 3 secondes, ça va être à toi pour le tuto audio. T'es prêt, Ellie ?
Je suis prêt.
Allez, à tout de suite. Le tuto audio, Ellie, Apple Watch au poignet. On est prêt à t'écouter et à te suivre. Qu'est-ce qu'on va faire de beau avec toi ?
Eh bien, écoute, on va faire un petit truc très simple, mais qui peut devenir très compliqué. Hein, comme tous les raccourcis, on peut rajouter des multiples variantes et de multiples fonctions. Le but de l'exercice de ce soir, en quelques clics, hein, vraiment en quelques clics, c'est de faire un raccourci qui va faire que le cadran de votre Apple Watch va changer automatiquement. C'est de la magie. Et donc, je vais juste afficher mon petit pense-bête pour ne rien oublier et ne pas vous faire faire des erreurs. Car j'ai fait un petit pense-bête.
Alors, je vais suivre les manips en même temps que tu vas nous les dire, Ellie. Je pose mon micro pour
donc,
appuyer
la première
sur
chose...
mon cadran, mon écran d'Apple Watch.
Yes, tu pourras vérifier si ça marche ou pas. Donc, la première chose, il faut ouvrir l'application raccourci sur votre iPhone. Jusque-là, je pense qu'on peut le faire. Donc, raccourci, je l'ai à l'écran. Ensuite, vous avez en bas au centre quelque chose qui s'appelle automatisation. OK ? Est-ce que vous l'avez ? Raccourci, il y a mes raccourcis, automatisation et galerie. Ouais. Donc
oui,
celle
oui,
du centre.
Je cherchais dans les blocs, mais en fait c'est en bas, dans la barre du bas.
Oui. Au centre, okay. Automatisation.
Okay.
Donc si vous en avez déjà, elles peuvent apparaître. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez appuyer sur le petit plus. En haut à droite, plus, pour faire une nouvelle automatisation. Et donc là, vous avez un écran qui vous donne le choix entre créer une automatisation perso, donc pour vous, pour votre iPhone et votre Apple Watch, ou pour éventuellement pour toutes les personnes qui seraient à votre domicile et qui pourraient en bénéficier éventuellement. Mais comme l'Apple Watch, c'est vous qui la portez, on va plutôt cliquer créer une automatisation perso.
OK.
Là, vous avez le choix, et c'est là où on a les différents critères. Soit une application qui va intervenir à une heure de la journée précise, mais ça pourrait être, par exemple, au lever du soleil, au coucher du soleil, lorsque j'arrive à un endroit, comme par exemple, dans ce qu'ils donnent eux comme exemple, à ma salle de sport, ou ce que j'arrive au bureau, ou quand je quitte le bureau, ou... quand je me connecte à CarPlay. Bon, il y a différentes méthodes, il y en a plein. Vous pouvez, quand je déclenche un exercice Apple Watch, lorsque mon iPhone se connecte, enfin bref, il y a des
Mais quand on fait défiler, on a plein de possibilités.
De propositions.
Voilà, et tout ça, vous pourrez les essayer. Ce seront des simples variantes, vous pourrez les essayer après. Là, on va prendre à une heure de la journée, par exemple. Et là... vous avez effectivement le choix entre aube, crépuscule ou heure. Donc là, on va prendre une heure. Donc je vous conseille l'heure actuelle que vous avez. Donc si vous regardez l'émission à l'heure où vous êtes en train de la regarder, vous cliquez sur heure de la journée et vous mettez par exemple 2 ou 3 minutes de plus que l'heure actuelle. D'accord ? Simplement le temps d'enregistrer l'animation, l'automatisation. Donc là, vous rajoutez 2 ou 3 minutes de plus.
Ouais.
Donc, et là, vous faites suivant. Et là, dans suivant, vous faites ajouter une action.
OK.
Et là, comme il y en a 10 millions, vous tapez directement dans la recherche, vous tapez cadran. Cadran comme un cadran, C-A-D-R-A-N.
Cadran, ouais.
Et là, il vous dit choisir un cadran.
Absolument.
Et donc là, vous avez une... action qui dit utiliser cadran comme un cadran actif, mais il ne vous dit pas lequel. Donc, il faut cliquer sur cadran. Et là, vous avez la liste de tous vos cadrans Apple Watch. Donc, moi, par exemple, je vais prendre Mickey Mouse, pourquoi pas. Et là, il vous dit utiliser Mickey Mouse comme cadran actif. Vous pouvez mettre autre chose, emoji ou autre chose. Vous faites suite. Et là, il dit, chaque jour, à l'heure que vous avez choisi, choisir un cadran, et surtout, très important, vous décochez, demandez avant d'exécuter, parce que sinon, avant de faire l'action, il vous demande d'être vous d'accord. Donc, comme on veut que ça change automatiquement, ça serait stupide qu'il vous demande. Donc, vous faites OK, et puis c'est tout. Et normalement, si vous avez mis, et si on n'a pas perdu trop de temps, normalement, moi, j'avais mis 2 minutes. Dans 2 minutes, mon cadran doit changer automatiquement et le vôtre, suivant ce que vous avez choisi. Il est changé de façon tout à fait automatique. Et donc, c'est l'intérêt, c'est juste que ben, vous pouvez dire, ben, quand j'arrive au bureau ou quand j'arrive dans ma salle de sport, je vais afficher, par exemple, un cadran exercice avec les cercles d'activité, etc. Quand j'arrive à la maison, je sais que je vais utiliser plutôt de la domotique. Donc, je vais afficher un cadran où je vais afficher mon application maison et des choses comme ça. Quand je monte dans la voiture, que je vais utiliser CarPlay, je vais peut-être utiliser un cadran qui va me montrer mon temps de déplacement pour aller au bureau ou des choses comme ça. En fait, on peut l'adapter à toutes les solutions. Et le seul truc, c'est que plutôt que de choisir dans les 30 ou 40 cadrans à chaque fois et y penser, ben là, vous allez avoir un cadran qui s'adapte à votre moment de la journée, à l'endroit où vous êtes, au fait qu'on soit le week-end ou pas le week-end. Bon, voilà, donc c'est très simple à faire et vous pouvez en faire comme ça autant que vous voulez et vous allez voir, en principe, si vous avez attendu, ben, voyez, moi, j'ai mon Mickey Mouse qui s'est affiché, hein, donc ça marche, il est à l'écran. Ouais. Et si vous avez choisi un mémoji, ce que j'avais fait tout à l'heure, il y avait mon visage mémojisé. Mais voilà, c'est simple à faire et ça marche.
Ouais, moi aussi, mon cadran a changé. C'est maintenant le cadran Californie qui s'est affiché.
Et voilà.
Très sympa. Anthony, pas d'Apple Watch, mais bientôt, hein.
Et pas encore. En fait, je l'ai commandé il y a quelques jours et devrait pas tarder à arriver. Donc, je réécouterai le podcast pour refaire la manip. En tout cas, ça donne envie d'utiliser Raccourci. Le fait de naviguer un peu dedans, les automatisations, etc. Ça donne envie de s'y pencher. Vous allez me contaminer. Hein.
On trouve plein de raccourcis. Petites...
Mais moi, celui que j'avais affiché quand j'ai démarré la démonstration, vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'avais pas mis face à la caméra, j'ai quelques trucs indispensables. Il y en a un qui dit, quand j'arrive à la maison, puisqu'en fait, comme c'est géolocalisé, allume les lumières extérieures, ce qui m'évite de me prendre les pieds dans l'escalier et dans le noir, et allume les lumières de l'entrée de la maison à telle puissance. C'est-à-dire que dès que la voiture franchit une distance de sécurité par rapport à la maison, donc avant que la grille s'ouvre, j'ai mes lumières extérieures qui s'allument automatiquement et les lumières de la maison qui sont à moitié allumées pour m'accueillir dans la zénitude. Et je n'ai rien à toucher et je trouve ça magique.
Nos coups de cœur de la semaine. Allez, priorité à notre invité Anthony. Je crois que tu as une série à nous recommander.
Exactement, j'ai eu un vrai coup de cœur en fait cette semaine. Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à Canal, il y a une série qui est sortie donc là dernièrement, c'est Your Honor. Pardonnez mon accent anglais, bien sûr. En fait, c'est l'histoire de, et c'est absolument génial. C'est 10 fois 55 minutes qu'on dévore très rapidement. En fait, c'est l'histoire de, ça se passe aux États-Unis, c'est un juge très respecté, très respectable, très reconnu, c'est un mec bien. Il a un fils de 17 ans et son fils de 17 ans, dans l'épisode 1, il fait une bêtise. Il fait une très grosse bêtise, je vais pas spoiler, mais c'est dans les premières scènes. En fait, la série va raconter un petit peu la descente aux enfers du juge, qui est le personnage principal, qui va être tiraillé entre, du coup, son intégrité, puis son travail, rester droit, etc. Et couvrir quand même son fils. Donc, il y a une espèce de descente aux enfers qui est absolument... qui est mené de main de maître, c'est hyper bien réalisé, les acteurs sont au top, enfin c'est vraiment absolument génial. À la fin, on est juste pressé d'avoir une saison 2, ou peut-être que c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Enfin c'est vraiment génial, ça se déguste sans fin, c'est au top.
Ellie.
Bah, ça me fait penser, si tu ne l'as pas regardé, il faut absolument que tu regardes, à cette incroyable série sur Apple TV+, dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui s'appelle « Défendre Jacob » et qui explique exactement, c'est le même pitch, sauf que c'est un procureur qui devient avocat de son propre fils qui a fait une bêtise. Et on attend la saison 2 qui va pas trop tarder, mais qui est passionnante aussi.
Ouais, justement, j'ai vu...
On ne sait pas s'il a fait une bêtise, mais...
On ne sait pas, c'est vrai, c'est vrai.
Ah, il y aura la réponse dans la saison 2. Ouais, j'ai vu que justement, il conseillait cette série-là aux gens qui avaient adoré Your Honor. Donc, je pense que ce sera la prochaine qu'on va entamer, ouais.
Et c'est tellement bien filmé. C'est... Ouais. Apple, ils en font peu, mais ils les font vraiment bien.
C'est canon, c'est vraiment canon. Ouais.
Ellie, toi aussi, tu as une série à nous conseiller.
Oui, je vous apporte une petite info sur une série dont on a parlé déjà une fois, qu'on attend impatiemment sur Apple TV+, et qui est la série Fondation. Fondation tirée des romans d'Isaac Asimov, hein, donc le grand maître de la science-fiction. Et on a eu des infos, on fait vraiment une série très attendue. Je vous conseille la bande-annonce qui est sur Apple TV+, parce qu'il est vraiment, on se prend une claque hein, en regardant la bande-annonce. Et donc, on a eu des infos car la série est en cours de tournage, hein, malgré le Covid. Et en ce moment, ils sont en Grèce parce qu'ils essayent de tourner un monde aquatique, apparemment. Et donc, la Grèce, ça fait penser à l'eau. Très bien. Du coup, le réalisateur a répondu à des questions de journalistes. Et il a dit que la série serait à la mesure, ou on peut dire, nous, à la démesure, pour ceux qui ont lu Fondation, d'Asimov, parce qu'en fait, il a dit que lui, il verrait bien, si Apple le suit et le public aussi, 80 épisodes d'au moins une heure. Ce qui veut dire que ça va dépasser largement Game of Thrones, ça va dépasser la trilogie des Seigneurs des Anneaux, et heureusement qu'Apple a un peu de budget, hein, parce qu'imaginez la production de 80 films de science-fiction d'une heure. Star Wars, ils ont largué. Hein. Donc, on attend avec impatience de voir ce que ça va donner.
Bon, bah, je vais aller voir la bande-annonce parce que, apparemment, elle est énorme. Envie, hein.
Ouais, ça donne
énorme.
Bon, moi, mon coup de cœur, c'est une appli. Alors, je vais le dire en marrant, mais qui pourrait bien faire trembler Instagram. Cette appli, elle s'appelle Dispo. D-I-S-P-O. Et sa particularité, c'est qu'elle nous rappelle le bon vieux temps où il fallait attendre que nos photos soient développées et tirées pour les voir. Et dans le cas de Dispo, l'attente, elle dure une journée. Un jour entier avant de voir vos photos. Celles que vous prenez avec votre iPhone, en fait. Alors, ça rend dingue. Et c'est sûrement ce qui fait le succès de cette appli qui a été imaginée par un YouTuber américain qui s'appelle David Dobrik, qui a très vite levé 4 millions de dollars. Alors l'interface, elle est folle parce qu'elle est incroyable. Vous avez l'impression, quand vous tenez votre iPhone pour faire une photo, que vous avez entre les mains un appareil photo jetable. Vous savez, avec le tout petit viseur, la toute petite fenêtre en haut, vous avez le flash que l'appli vous conseille de laisser toujours on comme à l'époque, comme avec un jetable. Et puis vous avez le bouton à droite sur lequel vous appuyez pour prendre la photo. Mais vous n'avez pas de visualisation. Vous la prenez et la photo, vous ne la voyez pas. Pour la visualiser, il va falloir attendre le lendemain matin à 9h. C'est totalement anachronique, mais c'est très marrant. Et bon, raffinement, c'est vous pouvez activer les notifs pour être prévenu quand vos photos seront dispo le lendemain. Et puis, le truc le plus génial, le plus marrant, c'est qu'il y a la molette. Vous savez, la molette à droite qu'on faisait défiler avec le pouce pour charger le film et préparer la prise de la photo suivante. Et ben quand on fait défiler le pouce sur la molette, on a le bruit de la molette qu'on avait sur les jetables. Bon, voilà, c'est marrant, c'est sympa.
C'est laquelle au niveau des icônes
Il y en a une verte, hein, et une jaune.
Parce qu'il y a une verte et une
jaune.
Alors, jaune. Attends.
Maintenant que tu nous as donné envie.
Ah ouais, on va l'installer.
Moi, j'ai la verte.
Ah, Live in the Moment, il s'appelle. Dispo Live
verte.
In the Moment.
Voilà. Bon, la seule différence avec un jetable, c'est que vous pouvez faire un selfie. Donc, vous pouvez retourner la prise de vue et vous prendre en photo vous-même. Mais à part ça, c'est vraiment comme un vrai jetable. Voilà, c'est sur l'App Store, c'est gratuit. Alors, l'App Store parle d'achat intégré. Et pour l'instant, j'ai pas vu où il fallait payer. Mais j'attends encore mes photos qui seront livrés demain matin à 9h, si tout va bien.
C'est génial, il y a une visualisation, mais elle est microscopique. Hein. C'est
microscopique.
Un confetti.
Ouais. Oh, c'est rigolo, c'est fun.
Wow. Trop fort.
Ah, t'as fait une photo de ton écran, Anthony.
Bah ouais, j'ai essayé en direct, moi.
Avec ton jetable à,
voilà, allez,
à 800 euros. On l'a fait, ce numéro 26, en mode Robinson Crusoe. Venez nous chercher. Ellie, bravo, depuis iWeek Island. C'était Benjamin. Merci. Vincent.
Merci, appelle-moi vendredi.
Oui, tu es un peu mon vendredi, Ellie. Et puis, merci beaucoup, Anthony, d'avoir été là.
Merci beaucoup à vous, c'est un immense plaisir, vraiment.
Eh bien, partagé, très sympa d'avoir ton retour sur tous ces sujets d'actu, et puis de faire ta connaissance.
Bah ouais, c'est toujours sympa d'échanger en direct, vraiment.
D'échanger avec toi, exactement. Ouais. Merci vraiment de ta fidélité, merci d'être là, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Nous, on se retrouve jeudi prochain, on sera le 25 février. J'espère qu'on sera un peu plus que deux ou trois. Hein. D'ici là, bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Faites bien attention à vous, évidemment. Continuez de vous protéger. Patreon pour nous soutenir, comme Anthony. Suivez son exemple si vous appréciez le boulot qu'on fait. À partir d'€1,50 par épisode, c'est le prix d'un café. Vous vous souvenez, à l'époque, on pouvait encore prendre des cafés dans les cafés. L'adresse n'a pas changé, patreon.com/iWeek. Abonnez-vous aussi. iWeek, la semaine Apple, le podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préféré. Passez une très belle fin de semaine, un bon week-end et à jeudi prochain. Salut à tous et bisous aux filles. Ciao.